était parmi toutes les nouvelles pièces dont le roi de fer avait commandé la construction, l'une des plus richement décorées. Le peintre du roi en personne, Évrard d'Orléans, y avait dirigé les travaux de peinture et de sculpture avec une attention toute particulière. Il l'avait fait entièrement pavé de marbre importé d'Allemagne. Les murs, dans la longueur, étaient pareils à deux galeries avec leurs arcades en ogive, et les arêtes d'isselles reposaient sur de hautes colonnes gothiques. Quatre immenses cheminées placées en vis-à-vis complétaient l'architecture singulière de la pièce. C'était ici que Nogaret, qui avait un goût certain pour le luxe, aimait à donner ses rendez-vous en l'absence du roi. On avait une vue unique sur la Seine, et la salle ouverte des deux côtés recevait une vive lumière même en cette saison, grâce aux longs vitrages incolores qu'assemblaient de fines résilles de plomb.
« Quelle est donc cette nouvelle qui ne pouvait pas attendre, mon cher Jean ? »
demanda-t-il en rejoignant l'homme qui l'attendait derrière les colonnes. Jean Ploibauche, prévôt de Paris, charge royale que l'on ne doit pas confondre malgré l'homonymie avec celle du prévôt des marchands, était dans la lutte de pouvoir qui opposait Nogaret à Marigny, l'un des plus fidèles soutiens du garde du Sceau. Chancelier, vous m'avez demandé de garder un œil sur les desseins du pape quant à la réglementation de la prostitution à Paris.
Si seulement son dessein n'était que de la réglementer. C'est surtout les bénéfices qu'il veut en tirer qui aiguisent ma suspicion. Et le fait que ces bénéfices échapperont au trésor. Je n'aime pas voir de l'argent se dérober aux caisses du royaume pour entrer dans celles d'Avignon. Le pouvoir spirituel ne devrait pas s'occuper des affaires de finances. Et pour citer le très saint Matthieu, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
Nogaret, homme pieux et érudit, avait pour manie de se référer souvent aux saintes écritures, surtout quand il entendait critiquer le clergé, ce dont il se privait rarement. Eh bien justement, il y a peut-être matière à se réjouir. L'ordonnance secrète de Clément V vient de rencontrer quelques résistances.
Nogaret souleva un sourcil intéressé.
Expliquez-vous.
L'abbé de Saint-Magloire a refusé d'exproprier trois fillettes dont la maison était sur sa censive.
Un abbé qui s'oppose au très Saint-Père.
S'étonna le chancelier sans cacher son amusement.
Je savais que Boussel était un pervers, mais j'ignorais qu'il était aussi séditieux.
Visiblement, il l'a fait sous la pression d'un apothicaire du quartier.
Lequel ?
Un certain Andreas Saint-Loup. À la seule évocation de ce patronyme, le visage de Nogaret s'obscurcit. Il se mit alors à se frotter la partie droite de son grand front, comme il le faisait souvent en proie à de terribles migraines.
« Je vois, » dit-il en grimaçant.
« Il m'a semblé opportun de vous en faire part, car vous n'êtes pas sans savoir que l'abbé Boussel est proche de l'archevêque de Sens. »
« Et vous vous demandez donc si Marigny n'aurait pas un rapport avec tout cela ?»«
Je me contente de vous rapporter les faits, chancelier. »«
Vous avez bien fait, Jean, vous avez bien fait. »
Nogaret fit quelques pas vers le bord de la salle et plongea son regard dans les eaux verdâtres du fleuve en contrebas.
« Il faudrait que vos gardes surveillent discrètement l'homme. »«
L'abbé Boussel ?»«
Non, Saint-Loup. Je veux que vos hommes surveillent de près cet apothicaire, monsieur le prévôt. »«
Vous pensez que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que je pense ?»
Il y a plus au sujet de cet homme que ce que l'on peut voir.
Chapitre 23. Le lecteur nous pardonnera à présent si, pour le bénéfice de la narration, nous choisissons d'accélérer, mais un instant seulement, notre relation des faits et brossons en quelques pages ce qu'il advint pendant les 45 jours qui suivirent ce qui vient de lui être rapporté. Pendant tout ce temps, Maître Saint-Loup, en proie à cette inextinguible perplexité, continua en lui-même de chercher à expliquer les deux mystères survenus dans sa demeure. En vain. Aucun raisonnement ne vint à bout de ses vicissitudes. Un jour, il alla même visiter l'atelier.